L'imperialisme américain et les dégâts qu'il fait en Amérique latine, au Vietnam, en Afrique. Nous avons une tradition de lutte anti-impérialiste américaine. Et personnellement, je connaissais mal l'impérialisme soviétique et j'avais envie d'en savoir plus. Alors, j'ai rejoint le comité genevois de soutien au peuple afghan. Et très vite, par la rencontre avec les membres du comité, j'étais informée et je me suis rendu compte du courage extraordinaire de ce peuple qui lutte quasiment les mains nues contre une des superpuissances mondiales. Le peuple afghan lutte les mains nues contre le napalm, les bombardements, les armes sophistiquées. Et ce courage et cette détermination m'ont vraiment donné envie de connaître le peuple afghan de près. Une autre chose qui m'intéressait, c'était que les femmes afghanes vivent dans des conditions difficiles. Que je connaissais mal et que je connais encore pas très bien. Et j'avais envie de voir comment c'est possible de développer la solidarité internationale entre les femmes. Concrètement, lors du travail avec le comité genevois de soutien au peuple afghan, je me suis rendue à la conférence de Florence, qui était une conférence européenne de tous les mouvements de gauche et un peu plus large aussi sur la résistance afghane. Et lors de cette conférence, en mars de cette année, il y avait la présence de 5 commandants de la résistance afghane. Un de ces commandants s'appelle Salim. C'est un commandant de la guérilla à Kaboul. Et il a raconté des choses très intéressantes sur la résistance à Kaboul. Notre comité l'avons invité à venir à Genève. Et lors de sa visite, il m'a invité à venir en Afghanistan. Une chose que je voudrais préciser, c'est que ce soir, je ne parle pas au nom du comité de soutien au peuple afghan. Je parle en mon nom personnel et surtout au nom des Afghans et des Afghanes que j'ai rencontrés en Afghanistan et qui m'ont demandé de raconter ce que j'ai vu et de raconter, de transmettre leur message au peuple de Suisse et d'Europe.
Peut-être avant qu'on rentre plus dans les détails de ton voyage et tout ça, je pense que ça ne serait pas inutile que tu nous fasses un petit historique de l'Afghanistan. Quelle était la situation de l'Afghanistan avant l'invasion soviétique? Quel type de régime politique est-ce qu'il y avait?
Alors, pendant des siècles, du point de vue politique, il y a eu des rois qui faisaient semblant d'organiser ou qui dirigeait le pays. Le roi était à Kaboul et son influence était dans les villes. Et les paysans, parce que la majorité de la population afghane est paysanne, il s'agit donc de paysans pauvres et de paysannes pauvres, connaissaient à peine ce roi. Mais bon, il a réussi à freiner pas mal les développements. Par exemple, il y avait seulement 5% de la population qui savait lire et écrire. Les richesses naturelles de l'Afghanistan n'étaient pas mises à profit. Et quand elles étaient exploitées, c'était au profit de la cour, à profit du roi et de sa famille. C'est comme ça que ça se passait pendant des siècles. Et puis, il y a une trentaine d'années, l'Union soviétique a commencé à infiltrer le pays. Car l'Afghanistan a beaucoup de richesses naturelles. Il y a le coton, Il y a le gaz, le pétrole, les pierres précieuses, l'uranium. Il y a toute une série de richesses. Ce qui a une importance pas négligeable pour l'économie soviétique. Et surtout, l'Afghanistan se trouve à un endroit stratégique sur la carte. C'est-à-dire qu'en prenant possession de l'Afghanistan, l'Union soviétique s'assure un accès aux mers chaudes et au golfe Persique, donc où il y a les régions pétrolifères. Alors, depuis une trentaine d'années, l'Union soviétique a infiltré le gouvernement de manière militaire, en assurant la formation des militaires de l'armée soi-disant afghane, en faisant une infiltration économique avec des accords, des paix, des relations amicales, des traités d'amitié afghano-soviétique et tout le tralala. Et il y a quelques années, l'Union soviétique a organisé des coups d'État, carrément. Ils ont mis en place des personnages pour représenter les intérêts soviétiques en Afghanistan. Alors le peuple, face à ses visées, le peuple a commencé à s'organiser et il a commencé à se soulever parce que il avait envie que le fruit du travail des Afghans et des Afghanes revienne aux Afghans et aux Afghanes et pas aux dirigeants du Kremlin. Alors des régions entières ont commencé à se soulever, par exemple la région du Nouristan où je me suis trouvée, le Nouristan et le Kunar, en 1978 déjà, avant l'invasion proprement dite, le Nouristan a proclamé une région autonome avec son gouvernement, son drapeau, son organisation économique et militaire et son armée. Une autre région, le Hazarajat, qui se trouve au centre de l'Afghanistan, a aussi commencé à s'organiser et à se soulever contre ces personnages poussés par l'Union soviétique. Alors bon, les dirigeants de l'Union soviétique, ils ont vu que quelque chose commençait à bouger en Afghanistan et ils ont été obligés, pour eux, pour défendre leurs intérêts, d'écraser ce soulèvement populaire. Une autre raison pour laquelle les Soviétiques ont envahi l'Afghanistan, c'est que les régions sud de l'Union soviétique, le Tadjikistan, est composé de Tadjiks et qui a la même population du point de vue ethnique que les Tadjiks d'Afghanistan. C'est également vrai pour l'Ouzbékistan et les Ouzbeks. Il y a des Ouzbeks des deux côtés de la frontière, côté Union soviétique et côté Afghanistan. Il y a plusieurs ethnies communes. Alors si le peuple afghan commence à s'organiser, ça risque d'être contagieux et les peuples du sud, des régions sud de l'Union soviétique risquent de s'organiser aussi. Alors c'était une autre raison pour écraser le soulèvement en Afghanistan.
Peut-être avant d'entrer plus en avant sur comment se déroule cette guerre, on écoute un peu de musique, on écoute des chants de la résistance, c'est ça?
Oui. Je voudrais excuser la qualité un peu perturbée de cette cassette. Elle a été enregistrée clandestinement à Kaboul, donc depuis l'invasion soviétique. Et il y a des nuisances. Ces nuisances sont dues à des coups de feu et à des passages de tanks dans la région où a été enregistrée la cassette. Les chansons sont chantées par Farid et par d'autres guerrieros de Kaboul. Ils chantent leur désespoir face à la patrie occupée et leur détermination pour mener la révolution jusqu'au bout.
از گنبدر کنی کاخ ستم را از گنبدر کنی
Tu peux peut-être nous dire un peu comment se présente géographiquement l'Afghanistan et dans quelle région tu t'es rendu. Et je pense que ça peut nous aider à comprendre le type de guerre aussi que les Russes pratiquent là-bas.
Alors l'Afghanistan se situe sur la carte à droite de l'Iran et à gauche du Pakistan, au sud de l'Union soviétique. Et il y a une frontière commune avec la Chine. Du point de vue géographique, il s'agit en majorité de montagnes, de régions montagneuses. Il y a des plaines au sud, aussi presque désertiques. Alors cette structure géographique est très importante pour la résistance. Car les montagnes, surtout quand les soviétiques ne les connaissent pas, les montagnes sont difficilement contrôlables. Bon, on peut bombarder, on peut faire des attaques de gaz chimique, mais comme il y a peu de routes, très peu de routes, il est très difficile que les tanks montent dans les montagnes, s'installent et fassent des garnisons et contrôlent les régions. Il y a des garnisons, mais elles sont pour le moment dans les vallées et plus ou moins inefficaces, car l'armée composée de quelques Afghans qui restent coopère avec la population vraiment dans de grandes mesures. Alors, parmi cette région montagneuse, au nord-est de Kaboul, se trouvent le Nouristan et le Kunar, qui ont des spécificités peut-être par rapport au reste d'Afghanistan, parce qu'il y a, beaucoup d'ethnies et de groupes différents en Afghanistan. Il y a les Pachtous, il y a les Hazaras, il y a les Ouzbeks, les Tadjiks, il y a beaucoup de populations diverses. Et le Nouristan est composé de Nouristani. Le Nouristan veut dire terre de lumière. Et son ancien nom est le Kafiristan, c'est-à-dire la terre des infidèles. Car, comme beaucoup d'endroits dans le monde, l'islam a été amené de force et la population se pliait très peu et a résisté contre cette invasion et cette imposition de l'islam. Et dans la région du Nouristan, ça fait seulement une centaine d'années que l'islam a été imposé. Et il y a encore beaucoup de cultures différentes, de cultes spéciales par rapport aux objets, des coutumes différentes que celles dans d'autres parties en Afghanistan. Les gens parlent le Nouristani ou des dialectes différents d'après les vallées. Et c'est une région très importante. Il s'agit aussi d'une région très importante car stratégiquement, donc, elle est en plein dans les montagnes. L'accès est pratiquement impossible pour les tanks soviétiques et les troupes soviétiques. Et puis, comme je l'ai mentionné auparavant, c'était la première région à se soulever contre le gouvernement pro-soviétique mis en place par les soviétiques déjà en 1978, avant l'invasion. En plus, la région du Nouristan et du Kunar a une réputation d'être une région matriarcale. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs années ou plusieurs centaines d'années, il y avait une forme d'organisation qui ressemblait au matriarcat. Il faudrait encore définir ce que c'est le matriarcat, mais c'est une région intéressante à étudier. Et s'il y a des femmes qui ont envie d'étudier le matriarcat, allez au Nouristan et au Kunar, vous y trouverez des choses intéressantes, notamment quelques restes de matriarcats éventuels sont qu'on voit souvent des hommes avec des enfants au bras, les femmes participent activement dans la production, elles sont paysannes, elles travaillent la terre, elles font les semences, elles récoltent les grains, elles sont très actives dans la production. Actuellement, elles n'ont pas le contrôle sur le produit de la production. Mais ce serait intéressant de faire des recherches pour voir avant comment c'était. Un autre petit reste peut-être d'un éventuel matriarcat est que il y a certains hommes qui aiment bien se maquiller, qui mettent du noir autour des yeux, qui teignent leur barbe avec du henné en rouge, et ce serait intéressant.
Avant peut-être que tu nous expliques plus comment la guerre se déroule, je crois qu'il faut quand même qu'on se mette à parler de cette guerre. On écoute encore un peu de musique. Thank you. Comment t'es-tu rendu dans ces régions?
Alors d'abord, nous avons formé un groupe. Nous étions un groupe d'une dizaine de personnes. Donc il y avait neuf autres combattants afghans, Et nous avons marché à pied depuis le Pakistan jusqu'au centre du Nouristan. Et nous sommes descendus dans le sud du Kunar. Nous avons marché pendant 12 jours en mangeant des biscuits et en buvant du thé essentiellement, avec donc les cadeaux spontanés des personnes qui habitaient la région.
Et quelle est la première chose qui t'a frappée quand tu es arrivée là-bas?
La première chose qui m'a frappée, c'était le courage et la détermination des Afghans et des Afghanes. Je veux dire, simplement de les voir au loin, c'est des gens fiers, dans le sens beau du terme noble, et puis leurs actions vraiment correspondent à l'impression générale qui se dégage d'eux. Ils luttent vraiment avec peu de moyens matériels et avec une volonté, toute leur volonté, contre l'envahisseur.
Et comment se manifeste cet envahisseur quand tu as mis le pied en Afghanistan?
Alors nous venions de passer la frontière et les Afghans ont crié de joie, leur joie de retrouver le pays. C'était un moment très émouvant. Et deux minutes après, nous nous sommes trouvés face à une bombe de 250 kilos, une énorme bombe qui n'avait pas encore explosé. Et c'était notre première rencontre avec la réalité de la guerre. Ensuite, nous avons dû marcher le long des sentiers, car si on sortait des sentiers, on risquait de tomber sur une mine antipersonnelle.
Mais c'est quoi une mine antipersonnelle? Tu peux expliquer un petit peu?
Alors, une mine antipersonnelle est un petit objet de forme de papillon dont le but est de blesser. Le but est de blesser et pas de tuer, car une personne qui est blessée, on doit la soigner, on doit la nourrir, on doit la porter. Elle devient une charge pour la communauté. Alors qu'une personne qui est décédée, on la pleure, on l'enterre, et on se souviendra toujours dans nos cœurs de cette personne. Mais un blessé ou une blessée pose des problèmes matériels très concrets qui, objectivement, prennent les forces de la résistance qui pourrait être dévouée à d'autres, à des actions militaires. Alors les mines antipersonnelles sont fabriquées de couleurs de plastique différentes. Par exemple, clair l'été et plutôt sombre en automne, pour mieux se dissimuler dans le paysage.
Et comment est-ce qu'elles arrivent là, ces mines antipersonnelles?
Elles sont larguées par hélicoptère sur des régions entières. Elles sont larguées et donc elles se confondent avec le paysage. Et puis quand on en touche une avec le pied saute, la jambe explose. Et de même avec les mains et les bras. Et souvent, on met le pied dessus, la jambe explose et on tombe dessus avec le bras. Et on a souvent un pied et un bras complètement mutilés.
Et comment ça se passe sur les sentiers? Parce que tu as dit que vous marchiez principalement sur les sentiers. Mais sur les sentiers, il doit aussi y avoir des mines antipersonnelles.
Les sentiers qui sont utilisées habituellement par la résistance, sont déminées régulièrement par les combattants. Les combattants se mettent en ligne de 3 ou de 4 et ils avancent lentement. Et quand ils repèrent une mine antipersonnelle, ils prennent un caillou, une pierre, ils la jettent sur la mine et la font exploser. C'est un travail très long et très pénible. Et puis, quand un combattant perd une jambe, un autre combattant le remplace. Et la marche continue et il démine les sentiers jusqu'à ce que les sentiers soient sûrs et qu'on puisse s'y rendre. Une autre chose à rajouter sur les mines antipersonnelles, c'est que les enfants en sont les premières victimes. Parce que elles sont en forme, elles sont en plastique, elles sont de couleur, et les enfants sont attirés par ces objets. Donc les enfants sont les premières victimes des mines antipersonnelles.
Les Russes, donc, ne font pas que de jeter ces mines antipersonnelles. Je crois qu'ils utilisent aussi le napalm.
Oui, malheureusement, le napalm est aussi utilisé en Afghanistan. Le napalm est une sorte de boule de feu qui met le feu au village, qui incendie les villages.
Toujours par hélicoptère, ça se passe?
Oui, par hélicoptère. Mm. Et le napalm, c'est un produit qui s'agrippe à la peau et qui ronge la chair jusqu'à l'os, jusqu'aux os. Il y a des photos disponibles de femmes, de personnes qui ont été napalmées. C'est absolument horrible à voir. Et il n'y a rien qu'on peut faire, quoi. On se jette dans l'eau ou quelque chose et puis ça s'empire, quoi. C'est vraiment une arme absolument horrible. Et puis qui est utilisée comme toutes les armes de toute la guerre de l'Union soviétique contre l'Afghanistan, qui est utilisée contre toute la population. Enfants, femmes, vieillards, hommes, sans discrimination. C'est vraiment un massacre. C'est pas justifiable.
Et les Russes, donc, à part cette action qui se passe par hélicoptère, donc dans les endroits où justement il n'y a pas de route, à part ça, donc, sont plutôt cantonnés près des villes et le long des axes routiers. Est-ce que tu as eu l'occasion d'en rencontrer ou d'assister à des affrontements?
Alors, premièrement, le but du voyage était de rencontrer le peuple afghan et de visiter les régions libérées. Donc, le but du voyage était de voir les régions qui ont été libérées par les Afghans et les Afghanes.
Qu'est-ce que tu appelles libérées?
Libérées, c'est-à-dire que pour le moment, les Soviétiques sont dans les villes et sur les routes, et 90% du territoire, les montagnes, les vallées et les plaines, sont sous le contrôle des combattants.
Mais sont quand même soumis aux mines antipersonnelles.
Oui. Enfin, ouais. Il y a des bombardements, les mines antipersonnelles et tout, mais les combattants et les combattantes se baladent le fusil sur l'épaule, librement, comme ils le décident. Bon, bien sûr qu'il y a les mines antipersonnelles qui sont larguées pour couper la communication entre les régions, mais n'empêche, elles sont dans les mains des combattants.
Alors, tu n'as pas rencontré de...
Alors, je vais continuer. Alors, sur le but du voyage, un autre élément, c'est que la résistance prend beaucoup de précautions par rapport aux invités. Parce que pour eux, c'est une très grande signification qu'une personne d'un autre pays vienne voir, témoigner de ce qui se passe en Afghanistan. Alors ils prennent des précautions énormes et puis et ils ont voulu vraiment écarter tout danger éventuel. Parce que si quelque chose m'était arrivé ou arriverait à n'importe quel autre invité, vraiment ils ne se le pardonneraient pas. Ce serait, pour eux, c'est un déshonneur, c'est vraiment quelque chose qui ne se serait pas pardonné. Alors ils veulent être sûrs que quand ils emmènent quelqu'un, que toutes les conditions de sécurité sont assurées, que la vie de cette personne est protégée. Et ça s'est traduit concrètement par le fait que, premièrement, nous n'avions qu'une arme à répétition, c'était une Kalachnikov qui avait été prise à l'ennemi auparavant, et qu'ils me l'ont confiée parce que c'était la seule arme qui pouvait défendre un peu. Les autres armes étaient des vieux fusils, et ils ont pensé que c'était essentiel que je puisse me défendre, alors qu'eux avaient moins de moyens entre les mains. Et ensuite, il y avait toujours, bon, nous étions un groupe, et il y avait toujours une personne qui restait avec moi. Et pour absolument tout, en permanence, il y avait une personne avec moi au cas où quelque chose se passerait. Une autre raison pour laquelle c'est très important de pas être, ou d'être peu en contact direct avec les soviétiques, ou si on l'est en contact, ce serait avec des bonnes mesures de sécurité, c'est que le gouvernement soviétique cherche activement des personnes étrangères qui viennent en Afghanistan. Parce que pour eux, c'est très dangereux que quelqu'un vienne, témoigne, voit et témoigne à l'extérieur. Alors, ils essaient d'attraper les personnes, et quand ils les attrapent, ils les utilisent pour la propagande. Par exemple, s'ils attrapent un Suisse, ils pourraient dire « La Suisse capitaliste soutient les rebelles contre-révolutionnaires. » Et ça leur fait une arme de propagande extraordinaire dans le monde. Alors, ils essayent d'attraper les étrangers et les étrangères qui vont en Afghanistan.